Chapitre 7e. Le lendemain, quand Bertrand de Fonlus vit poindre l'humble toit des Brettes, au milieu des derniers chênes de la lisière du bois, il s'arrêta comme suffoqué, pareil voyageur qu'écrase l'admiration d'un site incomparable. Il posa la main sur son cœur et dit tout haut « Chère maison ». Dans ces deux mots, il résumait les longues ferveurs d'une méditation qu'il n'avait guère interrompue depuis la veille et qui différait étrangement, par son ravissement contenu et son émotion grave, des mouvements exaltés ordinaires chez les hommes de son âge au début de l'amour. Mais les maladies qui ont pour premier symptôme une sorte de recueillement de l'être atteint ne sont pas d'ordinaire les moins longues. « Oh Dieu » songeait-il, « cet amour pur comme la neige nouvellement tombé, ce cœur qui n'a jamais battu, cette rare beauté, cet esprit charmant, tout cela s'offre à moi dans un désert, loin de tout regard envieux, loin de toute menace, elle-même. Son être se fond auprès de moi. Par ses yeux, son âme déborde comme un vase trop rempli. Mais elle croit sa volonté la plus forte, et son secret est bien gardé. Ô joie du ciel, à nous deux promise, mais à moi surtout. Lui apprendre qu'elle est aimée, la conquérir encore plus, envahir ce cœur lentement, complètement, comme la crue d'un fleuve inonde jusqu'au plus intime recoin de la demeure solitaire bâtie sur la rive. Et puis la faire mienne, aux yeux de tous, mienne pour toujours. Avoir ce bonheur qu'elle me doive ses moindres plaisirs, le pain que chaque jour elle mangera. Et enfin, commencer la vie, l'existence utile pour les autres, indépendante et honorée pour moi-même, digne d'un homme. En approchant des Brettes, l'heureux Fonlus essaya d'éteindre l'éclat nouveau dont il sentait que son visage devait rayonner. Si souvent Madame de Frézeau l'avait dit « Votre physionomie est parlante. Je vous défie bien maintenant que je vous connais de me cacher la plus petite chose. » Et cependant, il fallait cacher une grande chose, pour un temps. Mais il vit du premier coup qu'il n'était pas besoin, ce jour-là, de se mettre en frais de dissimulation. Sa vénérable amie semblait fort agitée. Dès qu'il entra, elle lui dit, presque sans répondre à son bonjour, « Quel bonheur que vous soyez venu. Vous allez m'expliquer cette lettre que j'ai reçue, chargée, je me demande pourquoi. Elle m'a fait d'abord bien peur, quoique je ne l'ai pas trop comprise, mais votre nom qui s'y trouve m'a rassuré. De vous et des vôtres, peut-il venir rien de fâcheux ?» Le jeune homme prit connaissance de la missive suspecte qui émanait d'un notaire de Melun. Grâce à l'amphigourie technique du premier clerc qu'il avait rédigé, elle était en effet aussi confuse que possible, mais en la relisant deux fois, Bertrand finit par la comprendre. Elle était aux fins d'aviser Madame Veuve de Frézeau que la pauvre maisonnette occupée par elle en vertu d'un bail verbal venait d'être achetée par la très haute et très puissante marquise de Fonlus et qu'il fallait en déguerpir à la Saint-Martin prochaine, soit le 11 novembre avant midi, suivant l'usage des lieux. Le jeune marquis devint très pâle. C'était sa façon d'être en colère. Il réfléchit avec tout le sang-froid dont il pouvait disposer pendant la moitié d'une minute. Heureusement, ce jour-là, il était venu à cheval. Feignant une trompeuse indifférence, il dit sans s'asseoir, comme on l'y invitait, « Ma foi, madame, je ne suis guère plus habile que vous dans l'art de déchiffrer ces grimoires. Mais en une demi-heure de bon trot, je serai à la porte de l'imbécile de notaire qui nous casse la tête avec ses rébus, et je vous dirai ce qu'il en est, sinon ce soir, car j'aurai probablement une autre personne à consulter, du moins dans les 24 heures. Veuillez mettre mes respects aux pieds de Mademoiselle de Frézeau. Ni vous ni elle n'avez rien à craindre de l'avenir, soyez-en sûr, aussi vrai que je m'appelle Fonlus. » 20 minutes après, il tombait au milieu de l'étude, à Melun, à peu près comme Louis XIV au milieu du Parlement. Je gagerais que le jeune marquis n'était pas moins en colère que le monarque en train de s'émanciper. La différence est qu'il ne pouvait pas dire « l'État c'est moi » et le notaire le lui fit observer en toute politesse. « D'ailleurs, ajouta ce brave homme, je ne sais rien de ce que j'appellerais les détails concomitants de l'affaire. Mon ami Vincent, l'intendant de Madame la Marquise, m'a chargé d'acquérir un petit bout de terrain sans valeur » qu'on nous a, ma foi, bien fait payer 9 000 francs, car nous avons laissé voir que nous étions pressés. « Et pourquoi pressés, jour de Dieu ?» s'écria Bertrand. « Voilà ce que je voudrais savoir, par exemple. » Il s'agirait, monsieur le marquis ne l'ignore pas sans doute, il s'agirait d'établir un des deux gardes du domaine, un jeune homme qui va se marier dans cette petite maison, qui semble avoir été bâtie tout exprès, paraît-il, sur la lisière des bois de Madame la Marquise. « Oui, da !» rugit le faux Louis XIV. « On a bâti les brettes et... quelqu'un que je sais y fait mettre un grillage et des rosiers pour les beaux yeux de la future Madame Guignard. Ah ah, cet animal va se marier. Eh bien, parole d'honneur, il ne l'est pas encore, mon cher monsieur. Rappelez-vous ce que je vous ai dit là. » Le jeune homme en était à son deuxième serment. Il devait en faire d'autres plus graves avant peu, ainsi qu'on va le voir. « Alors, conclut-il en se levant, c'est ma mère qui jette Madame de Frézol dans la rue. Monsieur le marquis veut sans doute parler du locataire actuel. Nous avons dû en effet lui signifier congé par simple lettre recommandée, comme l'usage le permet, ce qui est à la fois plus expéditif et moins... » Bertrand de Fonlus était déjà remonté sur le lion, qui dut trouver le métier dur, car il n'aurait pas eu le temps de souffler entre Melun et le château si, par bonheur, pour le cheval, Guignard ne s'était trouvé sur le chemin de traverse que le cavalier suivait, bride abattue. « Garde, un mot, » dit Bertrand, s'arrêtant court à tout risque. « Vous vous mariez ?»« La chose n'est pas faite, monsieur le marquis, mais il en est question. C'est mademoiselle Étiennette. »« Ah, fort bien. Et une fois marié, vous allez aux brettes ?» Guignard ouvrit les yeux et la bouche sans répondre. Il ne comprenait plus. Fonlus, lui, comprenait. Il rendit la main au lion, sans s'occuper du garde, qui restait planté comme une borne, muet d'ahurissement, avec une vague inquiétude, née du regard noir qu'avait son maître en lui parlant. Tout en piquant au cou, celui-ci disait entre ses dents, « L'affaire est bien montée, rien n'y manque, pas même le prétexte. Mon saint patron, obtenez-moi la grâce de ne pas dire tout à l'heure des paroles qu'un fils ne doit pas prononcer, même quand sa mère le pousse à bout. » La marquise, en voyant le jeune homme entrer dans son cabinet, la plume à rebours, fut moins surprise que n'avait été Guignard, car elle attendait l'orage une heure plus tôt, n'ayant pas compté sur le détour de Melun. Mais comme l'avait été Guignard, elle fut inquiète. Bertrand regardait mal. Telle fut son impression, tandis qu'elle l'examinait, en l'admirant, car il était superbe, dans cette lutte sourde entre la colère et le respect. Elle se dit, un peu troublée, « Aimerait-il pour de bon ?»« Je le trouve tout changé. » Pour changer, il l'était, plus encore que ne pensait sa mère. Et il débuta par lui faire un grand salut de cour. Puis il posa son chapeau sur un meuble. Ensuite, il défit ses gants, sans se presser. Enfin, il alla chercher une chaise à l'autre bout de la pièce, tout cela pour gagner du temps. « Ma mère, commença-t-il, on peut faire une mauvaise action sans le savoir. C'est de quoi vous êtes menacé. Vous jetez sur la poussière du chemin une pauvre vieille femme qui ne peut pas quitter sa chaise. Dieu merci, vous êtes moins infirme qu'elle, mais vous l'êtes cependant. Mettez-vous à sa place et tâchez d'imaginer quelle serait votre angoisse aujourd'hui si, comme elle, vous étiez pauvre, très pauvre, et obligé de trouver un asile. » Je pourrais vous répondre, dit Madame de Fonlus en cachant son émotion, que l'on n'est pas si pauvre quand on possède un piano. « Mais j'ai quelque chose de mieux pour me défendre contre mon fils, qui m'accuse d'être inhumaine. La nouvelle habitation de ces deux femmes est trouvée, et je vous jure qu'elles y seront mieux qu'aux brettes. C'est un peu loin, mais les bords de la Marne valent ceux de la Seine, qu'elles ne voyaient pas d'ailleurs. Quant au déménagement et au transport, j'en fais mon affaire. » Bertrand pâlit de douleur en voyant combien tout était préparé déjà pour l'exécution de la sentence. Il répliqua, faisant un effort pour rester calme. « Vous avez tout prévu, je le vois, sauf une chose. Peut-être que ces deux femmes, comme vous les appelez, n'accepteront pas votre aumône. » La marquise répondit fort imprudemment, « Je ne vois pas pourquoi, elles acceptent bien les vôtres. » Il y eut un silence. Le jeune homme avait une main sur ses yeux, et détournant la tête, il écrasait sous ses paupières de larmes que la colère y faisait monter, privée d'autre issue. Alors il se sentit très calme. Après cette parole qu'il venait d'entendre, sans oublier l'austère devoir du respect, rien ne risquait plus de l'entraîner hors des bornes. Il répliqua lentement, « J'espère que Dieu vous pardonnera l'outrage amer lancé par vous à de nobles créatures qui ne vous ont fait aucun mal. » « Aucun mal? Vous me prenez pour une sotte, je pense. Les nobles créatures en question vous ont pris à moi. Voilà ce qu'elles ont fait. Je m'explique aujourd'hui votre superbe indifférence pour le mariage et pour les parties qu'on vous offre. »« Ma mère, dit le jeune homme en se levant, Je vous en supplie, ne continuons pas cette discussion. Vous avez tous les droits d'un propriétaire. Moi, j'ai ceux que possède le dernier des mendiants. Si Madame de Frézol quitte sa demeure contre sa volonté, je partirai d'ici le même jour. Sur le repos éternel de mon père, je vous affirme que je ferai cela. Où irez-vous ? Où l'on va quand on n'a rien à soi ? Servir en Afrique, au Tonkin, n'importe où. Je suis officier de réserve. La chose peut s'arranger. Ne souriez pas. Je vous assure que l'heure est mal choisie. Madame de Fonlus crispa les doigts sur les sculptures de son fauteuil. « Et vous dites qu'elles ne m'ont rien fait ? » s'écria-t-elle. « Vous voyez vous-même où j'en suis. On me met le marché à la main, sans détour, mon fils en Afrique ou ces distractions installées sous un toit qui m'appartient. Entre cette douleur et cette honte, il faut que je me décide. » « Ainsi, répliqua Bertrand, vous ne daignez même pas supposer que mes actes ont peut-être un motif noble ? Non, ma mère, je ne veux ni la honte ni la douleur pour vous, mais je ne veux pas non plus qu'une pauvre vieille femme infirme subisse le trouble effroyable d'une expulsion ignominieuse. Croyez-vous qu'elle ne comprendra pas ce que vous pensez d'elle et de sa fille ? Durant ces 2 mois qu'on lui laisse, quelle sera sa vie ? Avant que le délai n'expire, on l'aura mise dans sa tombe. Encore si quelqu'un l'avait préparée. Croyez-moi, gagnons du temps et d'abord que cette épée de Damoclès disparaisse. Permettez que j'aille dire demain à cette abandonnée, veuve comme vous, femme de qualité comme vous, qu'elle peut dormir tranquille, qu'on a fait erreur, que le notaire agit sans instruction, que sais-je. Ensuite nous verrons, et vous n'aurez rien à craindre, car de même que je partirai si elle part, de même si elle reste, je m'engage à ne plus la voir ni sa fille sans votre assentiment. Avez-vous confiance en ma parole ? La marquise avait du coup d'œil. Elle comprit qu'il n'était point sage de pousser les choses plus loin quant à l'heure présente. « Mon ami, j'ai confiance en ta parole plus qu'en celle d'aucun être vivant. Et pour te le faire voir, j'accepte ce que tu me proposes. Quant au reste, nous aviserons, comme tu dis. La raison t'éclairera. Un jeune homme de ton âge, de tes goûts, doit se marier. Qu'as-tu gagné à faire le dédaigneux avec Miss Kingsley ? Est-ce une heureuse influence que celle qui t'a poussé à ce coup de tête ? « Ma mère, » dit le jeune homme, « vous avez toujours Miss Flora Kingsley sur le cœur. Vous souvient-il de notre conversation le matin de son arrivée à Fonlus ? Vous me trouviez déjà plus que froid. Eh bien, quoi que vous pensiez, quoi que vous ait rapporté ceux qui vous renseignent, j'affirme que j'ignorais alors jusqu'à l'existence des Brett, jusqu'au nom de mesdames de Frézol. Donc, ne les rendez pas responsables de ce qui est arrivé. J'irai les voir demain et je leur rendrai le repos. Ensuite, comme je vous l'ai promis, le chemin de leur maison ne me verra plus sans que nous en soyons tombés d'accord. Vous avez ma parole. » Sur ces bases, quelque peu branlantes, la paix fut signée, sans grand enthousiasme de part ni d'autre, car en réalité, c'était moins une paix qu'une suspension d'armes. La grosse artillerie n'était pas encore entrée en ligne.